Nous sommes le 8 mai, ça n'est pas un scoop, anniversaire de l'armistice qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce conflit, les peuples, en particulier les Allemands et les Français, se sont affrontés. Mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts. Il y a eu plus de 80 millions de morts, sans compter les blessés, les séparés, les disparus. Et cela, pourquoi ? L'humain, animal religieux, a un instinct grégaire. Il tend à se rassembler et vit en communauté. Mais son tempérament le pousse à s'affronter avec les autres communautés et même à l'intérieur de celles-ci. Comme un écho avec l'actualité des divisions qui déchirent les mouvements sociaux et les partis politiques de quelque bord qu'ils soient. Mais plus inattendu est, à mon sens, l'affrontement dans le monde chrétien et dans les communautés même. Donc cette prière de Jésus reste toujours d'actualité. Jésus prie pour que ses disciples soient unis. L'unité, qu'est-ce que cela veut bien dire ? Unité d'ailleurs difficile dans les Écritures depuis la Genèse. Difficile fraternité de Caïn et Abel, mauvais projet de la tour de Babel, et cela jusqu'à l'Apocalypse, voire les lettres aux églises. Déjà, certaines églises étaient déchirées par des courants, comme les Nicolaïques par exemple. Et l'œcuménisme lui-même n'est pas simple et pose dans la pratique des problèmes qui restent difficiles. Le prédicateur réformé, Alphonse Maillot, disait redouter cette prière appelée sacerdotale de Jésus. Car, déclarait-il, c'est la tarte à la crème de toutes les réunions œcuméniques. Vous connaissez Maillot, il ne mâchait pas ses mots. On la récite comme une litanie ténébreuse qui sert à obscurcir les divergences, à nier les discussions, sinon les rivalités. Et d'ajouter... « Tandis que nous murmurons qu'il soit un, nous pensons souvent qu'il soit réuni à nous et qu'enfin il nous ressemble. » J'ai, comme tout le monde, prêché sur ce passage, en particulier à l'église Saint-Maurice, quand nous avions encore, une fois par an, un culte œcuménique avec hospitalité eucharistique, c'est-à-dire communion avec les catholiques. Mais même tout cela est fini. Chez nous, Calvin lui-même a plus ou moins directement fait brûler Michel Servet, qui était venu chercher refuge à Genève. Servet, brûlé à Genève pour une différence d'idées sur la Trinité. On y reviendra. Sébastien Castelion avait réagi. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Ou Servet a combattu avec des arguments et des écrits. Il fallait le combattre avec des arguments et des écrits. Cela nous interpelle au moment où nos églises protestantes, et même à l'intérieur de l'Église protestante unie, oui, j'ai bien dit unie, sont dérangées par le problème de la bénédiction des couples homosexuels. Mais pas seulement. Mon professeur Alain Cuvillier a écrit un livre avec son collègue Charles Nicolas. Donc, deux pasteurs, professeurs de la même église. Mais leur différence théologique sur différents sujets amènera Charles Nicolas à abandonner la formule fraternelle à la fin de ses courriers et à écrire seulement « cordialement ». On comprend mieux le souci de Jésus au moment de s'absenter, de prier son Père pour ses disciples de tous les temps. C'est la septième et dernière fois dans l'évangile de Jean que Jésus évoque cette heure, son heure. C'était alors le temps de la fête de la Pâque, celle de l'an 30 probablement. 7, le chiffre qui dans la Bible symbolise la perfection, l'accomplissement. Cette heure de Jésus est celle de sa gloire, celle de son retour auprès de son Père, de son élévation, de l'instauration de son autorité sur l'humanité entière, de sa capacité à transmettre la vie éternelle à ceux et celles qui se confient à lui. Cette heure est en fait totalement terrifiante. C'est l'heure de l'humiliation, de l'impuissance totale. Cette prière se déroule en trois temps. Il se place entre les mains de son Père, il s'y abandonne. Puis, il prie pour ses disciples, ceux et celles qui l'ont suivi et qui vont témoigner de lui, Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Enfin, Jésus prie pour ceux des générations suivantes qui croiront en lui sur la base du témoignage des disciples. Autrement dit, Jésus a prié pour nous juste avant son arrestation. Il pensait à nous aujourd'hui. Dans cette prière, nous retrouvons plusieurs thèmes, mais il y a un même fil conducteur. C'est l'unité dans l'amour. C'est elle qui constitue la caractéristique de la relation entre le Christ et Dieu. C'est elle qui fonde la relation entre Jésus et ses disciples, comme Jésus l'a exprimé dans sa prière. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Et c'est toujours cette unité dans l'amour qui fonde la relation entre les enfants de Dieu et en particulier au sein des églises locales. Je te demande qu'ils soient tous un, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme moi tu m'aimes. Ainsi Jésus a prié pour un amour qui n'a rien de sentimentaliste, mais qui recherche le meilleur selon le Seigneur, pour son frère, sa sœur dans la foi. Il y a ces mots de l'apôtre Paul, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Il a prié aussi pour l'unité. Or, cette prière n'a pas pour but l'unité institutionnelle de l'Église. Une unité manifestée et maintenue par des structures externes, visibles, une seule dénomination, une seule hiérarchie. Mais unité qui serait déchirée par des conflits internes, rongée par des luttes de pouvoir et qui ne répondrait en rien à la prière de Jésus. Une telle unité, d'ailleurs, ne serait pas dans l'amour, mais dans l'étouffement des individus. D'un autre côté, nous ne pouvons pas écarter le problème que pose la division institutionnelle des chrétiens. Cela a commencé au XIe siècle avec le grand schisme entre l'Église d'Orient, qui deviendra l'Église orthodoxe, et celle d'Occident. Cela a continué au XVIe siècle avec la réforme en Occident. Et il faut bien reconnaître que le morcellement du protestantisme en mille et une dénominations complique l'image du Dieu de la Bible dans le monde. Franchement, le commun des mortels n'y comprend rien entre les réformés, les libristes, les frères larges et les étroits, les baptistes de la fédération et ceux de l'association. D'ailleurs, la liste est si longue que même en interne, on s'y perd. De plus, pour nos églises protestantes locales, au fonctionnement très indépendant, la tentation serait grande de se prendre pour la seule et véritable manifestation de Dieu dans la ville. Mais les églises issues de la Réforme permettent justement au courant spirituel de coexister dans une même communauté. Les convictions, par quelquefois différentes sur certains points de théologie ou d'actualisation de la pratique, ne doivent pas entraîner rupture et scission, affrontements et divisions. Elles sont au contraire une source d'enrichissement et de vie. L'histoire même de notre Église témoigne de cette vivacité. Les regroupements des Églises entre les deux premières guerres, l'adhésion à la Fédération protestante de France avec d'autres Églises très différentes, les choix lors du gouvernement de Vichy. Le mystère féminin, l'union avec l'Église luthérienne récemment. Et la liste n'est pas exhaustive. La bénédiction des couples homosexuels est dans la droite ligne de ces sujets graves qui mettent nos convictions et notre responsabilité de disciples du Christ à l'épreuve. Alors quoi faire? Des millions de Français et d'Allemands, militaires ou civils, sont morts pour l'amour de leur patrie. Enfin, la raison a fini par dominer et le couple France-Allemagne est maintenant le noyau de l'Union européenne, et ce, au moment où d'autres menacent de quitter cette Union. À plus forte raison, les chrétiens doivent apprendre à vivre et à construire ensemble. Il me semble que la prière de Jésus vise avant tout une unité spirituelle qui intègre la diversité des chrétiens au travers du temps. Jésus prie pour tous ceux qui croiront, à travers l'espace et jusqu'au cœur de nos assemblées locales. C'est quand nous avançons d'un même pas dans l'amour que se manifeste la présence de Dieu dans le monde, et pour nous, ici. Cette unité ne se conjugue pas avec l'homogénéité, c'est-à-dire tous pareils, mais avec la diversité et la complémentarité des uns et des autres. C'est bien l'amour seul qui peut nous permettre de trouver la juste fidélité à l'Évangile. Équilibre entre une Église qui regrouperait le 1,5 milliard de chrétiens sur des compromis hasardeux et à l'opposé, une Église individuelle, chacun se faisant de Dieu une image qui lui convienne et interprétant seul la parole. Une telle unité dans notre Église locale sera alors le reflet fidèle du Dieu unique qui se manifeste en trois personnes distinctes. Et nous pourrons alors appliquer ce précepte « La Trinité est un mystère à interpréter, l'œcuménisme est un mystère à réaliser ». C'est en regardant Jésus de Nazareth que nous sommes ensemble. Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur pour les relations fraternelles que notre Église a su tisser entre nous, avec les autres Églises de notre Union, mais aussi avec toutes les Églises de notre secteur géographique. Même si notre communion avec certaines dénominations ne peut guère aller très loin en l'état actuel des choses. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde et nous devons prendre soin d'un tel cadeau. Jésus a prié, car ces relations entre chrétiens ne peuvent être qu'un don de Dieu, un miracle accompli par l'œuvre de son Esprit. Nous pouvons donc joindre notre prière à celle de Jésus. Que notre Père céleste œuvre dans nos cœurs et dans nos circonstances, afin que nous vivions une telle unité dans l'amour, et qu'ainsi, beaucoup de personnes, à Annecy et dans les environs, voient Jésus en nous regardant et croient qu'il est bien le Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Amen.